Aujourd'hui, nous poursuivons une série de prédications, une série de prédications sur la première épître de Jean. Alors, nous avons commencé il y a plus d'un an. Ça fait presque un an que nous n'étions pas revenus dessus. Alors, je vais un petit peu rappeler le but que poursuivait Jean. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin du chapitre 3. Jean souhaite, dans cette épître, équiper les croyants de cette fin du premier siècle, hein, auquel il écrit, des moyens de reconnaître s'ils demeurent dans la vraie foi. Et nous avons identifié dans nos textes trois critères que Jean leur propose pour s'étalonner. Un premier critère qui était le critère moral, l'obéissance. Nous l'avons chanté, l'obéissance, dans les tout derniers chants. Critère exprimé dans les mots « si nous gardons les commandements de Christ ». Donc on reconnaît les disciples du Christ à leur obéissance, à leur maître, entre autres. Car il y a un deuxième critère, un critère d'ordre social, l'amour. Celui qui aime son frère est dans la lumière, nous dit Jean, et donc dans la vérité. Et celui qui hait son frère est dans les ténèbres, nous dit aussi Jean, et donc dans l'illusion, sinon le mensonge. Et puis un troisième critère d'ordre doctrinal, la foi, ou plus précisément la foi en la saine doctrine. En effet, à la fin du premier siècle est marquée par l'émergence de déviations doctrinales du sein même de l'Église. Et dans cette épître, Jean utilise une stratégie, une technique bien connue de la rhétorique antique qu'on appelle l'amplification. Et il s'agit, comme vous le voyez, sur cette spirale. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Et il s'agit, comme vous le voyez sur cette spirale, de partir d'un point central et ensuite de tourner autour de ce point et d'y revenir comme ceci, de manière cyclique, mais en amplifiant le mouvement pour... en accumulant de plus en plus de consistance aux propos, de plus en plus de détails. Et c'est comme ceci que nous allons voir les trois critères se revenir de manière cyclique, avec plus de force, plus de détails, avec une certaine accentuation des paroles, des termes, hein, qui en employant des termes de plus en plus significatifs, de plus en plus forts. Et donc la dernière fois, c'était le 30 mai 2021, un an déjà, tout au long du chapitre 3, nous avons attaqué le deuxième étage de notre spirale, c'est-à-dire que nous étions ici. Et en reprenant donc sur cet étage-là les trois critères, un par un. Le premier critère, donc... qui est revenu, Jean a développé le critère moral, l'obéissance, et nous avons trouvé dans ce chapitre 3 tout un argumentaire sur l'origine diabolique du péché, de son incompatibilité avec la condition chrétienne. En particulier, nous avons reconnu l'expression « pratiquer le péché », évoquant un usage régulier et non réprimé du péché. Et nous avons conclu cette partie sur le critère moral, l'obéissance, en citant un commentateur. Le chrétien peut tomber dans le péché, mais il n'y marchera pas. Le deuxième critère social, l'amour. Prenant l'exemple de Caïn, Jean amplifie son argumentaire pour expliquer que le manque d'amour pour nos frères et pour nos sœurs est une forme de meurtre. Et il oppose ceci à l'exemple de Christ qui, par amour, a donné sa propre vie pour nous. Et nous en sommes arrivés à la fin du chapitre 3, au verset 18, donc après avoir exposé pour la deuxième fois les deux premiers critères, et nous sommes au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. C'est quoi cette histoire de cœur qui condamne, nous condamne ou pas? Déjà, nous constatons que Jean inscrit ce qui va suivre dans le but global de l'Épître, que les croyants disposent des moyens de reconnaître qu'ils demeurent dans la vérité. Ce qui est traduit ici par là, hein, au verset 19, je peux le réafficher, qui est traduit ici par là, où c'est ainsi que, suivant les traductions, se rapporte à ce qui précède, c'est-à-dire au fait d'aimer les frères et les sœurs, non seulement par de belles paroles, mais au travers d'actes accomplis. On a beaucoup entendu ces derniers temps, en particulier dans le contexte politique des élections dans notre pays, les mots d'un poète français, Pierre Reverdy, qui a écrit ceci, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Alors, je n'aurais peut-être pas dit ça comme ça, j'aurais peut-être parlé de manifestation d'amour, de démonstration d'amour, plus que de preuves, mais dire que l'amour n'existe pas sans preuves, et sans doute pousser la logique un peu loin, mais l'idée de qu'il y ait une vanité dans un amour qui ne se traduirait pas en actes concrets est là. Dieu lui-même a donné aux hommes la preuve de son amour, a manifesté son amour, a témoigné de son amour envers nous en leur donnant son propre Fils. Et ceci s'inscrit bien sûr parfaitement dans le sens de cette épître, puisque l'amour des frères pour les frères et les sœurs est le critère social de notre adhésion à la vraie foi. Par là, nous dit Jean, en ceci, à ceci, nous saurons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Mais alors, avant d'aller plus loin, pourquoi ce besoin de rassurer nos cœurs? Qu'est-ce qui manque à notre foi, à notre cheminement, à notre relation avec Dieu, pour que nous éprouvions ce besoin de rassurer, d'être rassurés sur notre appartenance à Dieu? Que nous le voulions ou non, nous sommes plus ou moins fascinés par ces récits d'hommes et de femmes intrépides qui ont accompli des choses extraordinaires pour Dieu, au nom de Dieu, en son nom. Et à côté d'eux, peut-être avons-nous l'impression de faire pâle figure. Alors voilà, nous pouvons être tentés de les envier, peut-être de les imiter, de nous engager à notre tour dans cet élan qui nous fascine. Alors certainement, il y aurait beaucoup à dire sur la soi-disant intrépidité de ces personnes, car nous les regardons certainement avec un filtre dans notre perception qui nous cache leurs propres doutes et appréhensions. Par définition, ces récits présentent les choses après coup et nous manque la plupart de l'avant et du pendant leur action. Et au risque de vous choquer, je dirais que le doute est la marque du croyant. Comment ça? Comment ça, Philippe? Jésus n'a-t-il pas reproché à Pierre de douter alors qu'il marchait sur les eaux? N'engage-t-il pas ses disciples à ne pas douter lorsqu'ils lui font une demande? Jacques ne fustige-t-il pas l'homme qui doute en demandant la sagesse? Non, je persiste. Le doute est la marque du croyant. Mais entendons-nous bien, nous parlons ici, dans un Jean, du doute sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas du doute à l'égard de Dieu. ni de sa parole, de ses promesses. Jean n'aurait pas du tout écrit en ces termes s'il s'était agi de cela. Il aurait probablement utilisé un ton beaucoup plus persuasif, peut-être même tranché comme celui qu'emploie Jacques. Jean parle ici des doutes que nous éprouvons sur notre foi, sur nos motivations, sur nos capacités, peut-être sur notre appel. Ai-je bien compris? Est-ce bien cela que Dieu attend de moi? Suis-je la personne la mieux placée pour l'accomplir? Jérémie, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Moïse, je ne sais pas parler, on voit quelqu'un d'autre. On parle de Moïse, qui a fait sortir Israël d'Égypte et l'a conduit dans le désert pendant 40 ans. Et si là, par cette phrase, avait été l'expression de son seul doute, peut-être on pourrait passer sous silence, le considérer comme son doute initial, sous l'effet de la surprise, et on pourrait le mettre de côté. Mais non, il a régulièrement douté tout au long du chemin de lui, de ses assistants, de son peuple, de leur avenir à tous. Combien de fois le cœur de Moïse, on parle de Moïse, l'a-t-il condamné? Combien de fois Moïse n'a-t-il pas éprouvé le besoin de rassurer son cœur devant Dieu? Alors Jean le dit ici, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Le jugement de notre cœur sur nous-mêmes n'est pas un thermomètre étalonné au degré près. Il est aussi très dépendant de ses conditions d'utilisation. Mis en plein soleil, un thermomètre peut vous indiquer une température tout à fait agréable alors qu'il gèle. Nous vivons des instants, parfois, où notre cœur nous condamne, peut-être à raison, peut-être à tort. Et puis nous vivons des situations où notre cœur ne nous condamne pas, mais aussi peut-être à raison et peut-être à tort. Il y a fort à penser qu'une communion entretenue avec le Seigneur favorisera l'étalonnage des messages venus de notre cœur. Et en cela, j'ai repensé lorsque Monique a parlé ce matin du psaume 80, cité le psaume 84, ça illustre cette idée que quand ceux qui cherchent en l'Éternel leur refuge trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, et effectivement, une communion étroite avec le Seigneur favorise la droiture du cœur, une indication de sa part, de la direction que nous prenons. Mais nous ne pouvons pas le prendre, ça n'a pas le côté référentiel, notre cœur n'a pas le côté référentiel dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas prendre les messages qui viennent de lui pour argent comptant. Mais quoi qu'il en soit, par le questionnement qu'il engendre en nous, ces messages, ceux qui viennent de notre cœur, ils nous sont tout de même salutaires. Mais malheureusement, il existe des personnes qui ont verrouillé les portes de leur conscience afin de ne plus entendre les messages désagréables que le cœur leur envoie. Et parmi ces personnes, on en trouve qui font profession de foi en Jésus, qui ont fait taire tout doute sur eux-mêmes, sur les motivations qui les animent, qui ont acquis une certitude absolue sur le bien fondé de leurs actions, au point de s'estimer désormais libres de tout contrôle fraternel extérieur, un contrôle que de toute façon elles considèrent infondé, illégitime, voire apostat. Et c'est tout le contraire de ce que pratiquait l'Église primitive. Nous voyons dans les Actes des Apôtres des personnes de premier plan appelées par Jésus lui-même, comme Pierre et Paul, rendre compte auprès des apôtres des avancées de leur ministère et même attendre leur adhésion, leur approbation, leur soutien pour aller de l'avant, alors que même Dieu lui-même les avait clairement conduits dans ses voies. Les personnes les plus fiables sont celles qui se savent faillibles, tandis que celles qui se croient infaillibles sont les moins fiables. Et si c'est de nous que nous doutons et pas de Dieu, alors nous faisons bien. Mais nous ne sommes pas non plus destinés à rester indéfiniment dans le doute, au risque de rester bloqués là, incapables d'avancer. Nous sommes précisément appelés à aller de l'avant. Et c'est pourquoi nos certitudes, qui s'expriment dans les demandes que nous formulons à Dieu, reposent sur ce que les apôtres ont reçu et nous ont transmis, et que nous retrouvons dans ce texte, au verset 22 et 24, souligné ici, « Gardez fermement ces commandements, nous reconnaissons ici le premier critère moral, l'obéissance. Nous aimer concrètement les uns les autres, verset 23, critère social, l'amour. Et croire fidèlement au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, troisième critère, doctrinal cette fois, la foi. Et en cela, ce n'est pas souligné, mais nous sommes assistés par l'Esprit de Dieu, verset 24, demeurant en nous. Et cette mention ici, donc au verset 24, de l'Esprit, fait la transition avec l'introduction au troisième critère sur notre deuxième étage, j'espère que vous vous y retrouvez, notre troisième critère sur le deuxième étage, c'est-à-dire au cours du deuxième cycle de répétition sur la spirale, le critère doctrinal, et c'est ce que nous allons lire maintenant à partir du début du chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, il est déjà dans le monde. Cette partie n'est pas terminée, mais je l'arrête là un moment. Parce qu'il faut d'abord nous rappeler, on en a un petit peu parlé, mais le contexte dans lequel Jean a écrit son épître. Nous sommes à la fin du 1er siècle. Le christianisme s'implante largement dans tout le contour méditerranéen. Le combat mené dans les premiers temps par certains croyants d'origine juive pour imposer l'observation de la loi aux croyants, les croyants issus du monde païen, s'est progressivement atténué. Ça commence à devenir de l'histoire ancienne. On n'est plus trop dans ces questions-là, et en tout cas pas dans le contexte extra-judaïque. Mais de nouveaux périls sont venus des multitudes de philosophies du monde grec menaçaient la vérité doctrinale. Et plutôt que de rester attachés à la foi apostolique, certains ont fait évoluer au gré de leurs aspirations et des concepts du monde du moment la doctrine chrétienne. Le gnosticisme, qui finira par englober toutes ces manifestations, deviendra l'une des premières hérésies de grande ampleur que les pères de l'Église auront à combattre au cours des trois premiers siècles. Et nous avons déjà vu au chapitre 2 que Jean évoque des personnes que nous avons cru être des nôtres, mais qui se sont écartées de nous. Il dit, si elles avaient été des nôtres, elles seraient restées avec nous. Rien que cela, le désir de se séparer de nous témoignait déjà aux yeux de Jean l'éloignement de ces personnes de la foi authentique, à tel point que déjà, rien que pour ça, il les qualifiait d'antichrist, c'est-à-dire d'opposants au Christ. Mais là, ici, il va plus loin. Il parle de prétendus prophètes et de la nécessité pour les croyants d'exercer un discernement à leur égard. Alors, selon une des hérésies de la fin de ce premier siècle, il y en avait plein, hein, qui, et beaucoup portaient sur l'articulation entre la nature divine et humaine de Jésus. Mais l'une d'elles prétendait que le Christ n'est pas venu dans un homme. Je me trompe de paragraphe. Le Christ, donc selon l'une de ces hérésies, le Christ serait descendu sur Jésus au moment de son baptême et l'aurait quitté peu avant sa mort. En quelque sorte, Jésus aurait été au départ un homme ordinaire qui aurait été habité temporairement par le Christ, Fils de Dieu. Et c'est ici ce que Jean réfute. Le Christ n'est pas venu dans un homme, mais il est venu en homme. Hein, c'est ce qui est souligné ici. Le Christ est venu en homme, c'est-à-dire qu'il était pleinement présent en Jésus dès sa naissance et même dès sa conception. Pleinement homme, pleinement Dieu, vrai homme, vrai Dieu, c'est ainsi que nous le formulons. La plupart des hérésies confessaient que Jésus était le Messie. C'est pas là-dessus que portait le problème, c'est pas sur ce point qu'elle déviait de la foi chrétienne véritable. Comme je l'ai dit, nous ne sommes plus du tout dans les premières années de ces querelles sur le Messie qu'il y avait avec les Juifs qui attendaient le Messie, mais cependant l'avaient rejeté lorsqu'il était apparu. Désormais, c'est sur la personne de Jésus, son humanité, sa divinité, que se cristallisent les querelles et les divisions. Et donc, la question ici, centrale, n'est plus de reconnaître que Jésus est le Messie, ce que beaucoup admettaient, ou le Christ, mais ce qui d'ailleurs fait, par définition, admis de tous ceux qui professent la foi chrétienne, mais le Messie venu en homme, ou selon les traductions, le Christ venu en chair. La mention « venu en homme » est donc loin d'être accessoire ici, elle est même centrale dans le contexte dans lequel nous nous situons. Elle constitue le critère essentiel du discernement auquel Jean appelle ses lecteurs. Et donc je vais relire ces versets en y mettant peut-être une intonation particulière pour faire ressortir ceci. Tout esprit qui reconnaît que Jésus... Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Voilà, par deux fois, nous trouvons cette insistance, et on l'a dit, hein, au fur et à mesure que l'amplification se déroulait, les gens se feraient plus insistants, plus incisifs pour appuyer son propos. Donc, et là, il le fait en donnant la proposition et son contraire, hein, puisque tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu, et la proposition contraire de celui qui ne le reconnaît pas. Et on voit à quel point il était important pour Jean d'être au clair sur cette question de la nature pleinement divine et pleinement humaine de Jésus. Et c'est sans doute, à moindre échelle, ce que tente de traduire l'appellation Jésus-Christ, hein, Jésus l'homme, Christ l'envoyé de Dieu, le tout, dans une seule et même personne. Alors on peut se demander pourquoi l'apôtre est autant à cheval sur cette question et ce qu'elle implique pour nous concrètement. Eh bien, c'est parce que ça touche à notre salut, ni plus ni moins. C'est un peu comme la résurrection, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. » Et si Jésus n'est pas un vrai homme, tout comme nous, il n'a pas pleinement partagé notre condition. Il n'a donc pas eu à surmonter la tentation pour vaincre la malédiction du péché. Et s'il n'est pas le vrai Dieu, il n'est pas en mesure de se substituer à nous pour porter nos péchés à notre place il ne le pourrait même pas pour lui-même. Il n'y a qu'un Messie venu en homme, un Christ venu en chair, qui soit en mesure de nous offrir un salut complet et définitif. Toute autre conception remet en cause la logique même du salut. Notre foi perd alors tout appui concret, simplement elle ne tient pas la route. Et de ce fait, elle est à la merci de tout vent de doctrine, de nouvelles modes qui viendra se greffer et se nourrir de la crédulité des hommes. Elle évoluera dans le temps, digérée par les cultures locales et absorbant leurs croyances. Le message du Dieu descendu du ciel pour apporter le salut aux hommes par son sacrifice aura perdu son statut radical et révolutionnaire pour ne devenir qu'une religion ou une philosophie parmi d'autres. Et de fait, le gnosticisme engendrera au fil des deux siècles suivants toute une liste d'interminables courants issus de ces idées. D'où l'importance pour nous d'affermir nos connaissances en matière de doctrine chrétienne, car tôt ou tard, nous serons confrontés à des doctrines dont nous aurons à reconnaître la déviance. Alors, des fois c'est facile, puis des fois ça l'est un peu moins. Bon nombre d'entre elles se réclament de Jésus, comme nous, et ça nous met en confiance. Et parfois, mais il faut creuser pour trouver ce... On sent qu'il y a quelque chose qui coince, mais il est difficile de mettre le doigt dessus pour trouver ce qui s'éloigne de la pensée biblique. Le critère donné par Jean du Messie venu en homme touche bien sûr une vérité essentielle de la foi chrétienne, mais ce n'était qu'un exemple. De multiples déviances doctrinales sont survenues par la suite. Et bien, si c'était l'actualité brûlante pour l'Église de cette époque, cette actualité a changé, mais le développement des déviances doctrinales s'est toujours plus ou moins manifesté. Et nous assistons à cela alors que, nous sommes encore sous le ministère de Jean, un apôtre, tous les apôtres ne sont donc pas encore morts. Et on pense que Jean était le dernier à décéder, peut-être tous les autres sont-ils morts, mais voilà, Jean est encore en vie à ce moment-là. Et déjà, alors que les apôtres sont... Un apôtre demeure encore sur cette terre et transmet l'Évangile de la part du Seigneur, déjà. Des déviances apparaissent. En tout cas, Jean est encore là pour les dénoncer. Mais on voit aussi, et c'est son souci de léguer à... Il a un souci, c'est de léguer à tous les croyants les principes qu'il a appris. Ne vous fiez pas à tout esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Et il nous livre sa méthode. Mettez-les à l'épreuve. Et en particulier, j'aime beaucoup la tournure de sa phrase. Ne vous fiez pas à tout esprit. Et je ne sais pas comment, s'il a beaucoup travaillé ou si cette phrase ou si c'est sorti vraiment sous l'inspiration, mais... Je trouve qu'elle est remarquable parce qu'il n'appelle pas à la méfiance, en fait. Il ne dit pas « méfiez-vous de tout esprit ». Il dit « ne vous fiez pas à tout esprit ». Il appelle simplement à la vigilance et non pas à la suspicion. Le théologien John Stott évoque, je cite, « un scepticisme qui peut être une marque de maturité spirituelle autant que de foi. Nous avons besoin de préserver l'équilibre biblique pour éviter, d'une part, l'extrême superstition qui croit tout, d'autre part, l'extrême suspicion qui ne croit rien. » Je trouve que c'est particulièrement bien commenté. Nous continuons donc ce développement avec les versets suivants. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Et voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, à l'heure des fake news, des réseaux sociaux, ces derniers mots me semblent particulièrement appropriés. Reprenons. Jean, s'adressant à ses lecteurs, déclare « Vous, vous êtes de Dieu. » S'agissant des prétendus prophètes, il dit « Eux, ils sont du monde. » Vient ensuite un « nous ». « Nous, nous sommes de Dieu. » Et là, c'est moins clair. Qui sont ces « nous » ? Est-ce qu'il a dit « vous » ? Il a dit « eux ». Puis là, il y a un « nous ». Qui sont ces « nous » ? Qui sont ces « nous » qui, comme vous, sont de Dieu ? Est-ce qu'on doit comprendre que si quelqu'un ne nous écoute pas, nous, membres de l'Église baptiste de Clermont-Ferrand, c'est que il n'est pas de Dieu? Vous aurez relevé comme moi la faiblesse de cet argument, parce qu'il manque un référentiel. Qu'est-ce qui fait que, de prime abord, nous serions de Dieu plus que n'importe qui d'autre qui entrerait dans ces lieux, qui confesserait, tout comme nous, le nom de Jésus, mais qui ne prêterait aucune oreille à nos paroles? Est-ce que simplement parce que nous sommes plus nombreux, que nous sommes une église, que nous avons une confession de foi, que nous sommes d'accord entre nous? Vous en conviendrez, l'argument est un peu mince. Que pour être dans la vérité, il faut être d'accord avec nous. Alors, une autre interprétation s'impose. Et à regarder de plus près, on distingue vraiment trois groupes différents. Vous. Hop là, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis reparti au début, là. Au secours. Merci. Vous, qui êtes de Dieu. Eux, qui sont du monde, et nous, qui sommes de Dieu. Il y a vraiment trois groupes. Et une autre interprétation s'impose. On constate qu'avec ces trois groupes distincts, il n'y a qu'une seule conclusion possible, c'est que le « nous », c'est nous les apôtres. Celui qui connaît Dieu nous écoute, nous les apôtres. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas, nous les apôtres. Et on reconnaît ici aussi le « nous » de l'introduction de l'évangile de Jean. Lorsqu'en parlant de Jésus, Jean dit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire et nous avons reçu de sa plénitude. » Bien sûr que ça a un effet universel sur tous les croyants, mais les premiers lotis, ceux qui sont première loge, qui ont reçu pleinement tout ça, qui ont été témoins de Jésus, de son ministère, ce sont les apôtres. Qui peut parler de la sorte, si ce n'est les apôtres, témoins de la vie de Jésus? Et nous avons vu aussi dans les chapitres précédents que Jean fait référence à ce que les croyants ont reçu et entendu dès le commencement, c'est-à-dire, non pas dès le commencement du monde, mais depuis le moment où la parole leur a été prêchée par les apôtres. Et ceci disqualifie donc bien sûr l'idée de tradition de l'Église en tant que référentiel, mais ça disqualifie aussi, bien sûr, les prétendus prophètes qui prétendent tenir leur révélation de Dieu lui-même, car le seul référentiel réside dans tout ce que nous ont transmis les apôtres de la part de Jésus, eux-mêmes se tenant dans la soumission à ses commandements. C'est pourquoi nous revenons toujours à la parole, parce que c'est là qu'ils ont consigné les paroles et l'enseignement de Jésus. Avec le complotisme dont on a beaucoup parlé ces dernières années, je suis frappé de voir comment les référentiels sont remis en question. Des thèses qui me semblent, à moi en tout cas, farfelues, semblent remporter une adhésion grandissante, souvent au détriment de celles qui étaient considérées jusque-là comme éprouvées. Alors, bien entendu, il est parfois nécessaire de remettre en question les habitudes, et je ne rechigne pas à le faire, et on l'a évoqué, hein, on a parlé du doute, mais cette méfiance suspicieuse envers toute certitude et dans le même temps, cette adhésion paradoxale, sans réserve, à des thèses les plus exotiques, ça m'interroge. Et je ne vous cache pas ma crainte de voir cette tendance influencer l'Église. C'est un processus du même ordre que celui que j'en dénonce, d'apparence très spirituelle, bien sûr, mais instillant le doute, malheureusement pas sur nous-mêmes, ce qui serait déjà une bonne chose dans une certaine mesure, mais sur l'Église en tant qu'institution, sur son autorité spirituelle, sur la communion de ses membres, et peut-être même, poussé à l'extrême, sur l'autorité de la parole elle-même, la parole de Dieu. Mais, comme dans bien d'autres domaines, et en particulier tous les domaines qui traitent de la question de notre relation à l'Église, notre première responsabilité, ma première responsabilité à l'égard du corps de Christ qui est l'Église, c'est de veiller sur moi-même. La première prévention, c'est celle que j'exerce sur moi-même. Demeurer dans la vraie foi. Et ça, c'est une application des trois critères. Demeurer dans la vraie foi par l'obéissance au commandement de Dieu. Par l'amour pour les frères et les sœurs, par la fidélité doctrinale à l'enseignement des apôtres. Ainsi, je pourrai rassurer mon cœur sur moi-même. Avec l'aide de l'Esprit, je serai à même d'éprouver et d'identifier les esprits.